VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 3 mai 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer les titres. Aux quatre coins du monde, la liberté de la presse est attaquée, déplore le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Burundi, confirmation de la peine de 10 ans de prison prononcée contre la journaliste Floriane Irangabiye en janvier. Au Soudan, en pleine catastrophe, accord de principe des deux généraux en guerre pour une trêve d'une semaine. Amnesty International, citant des témoignages de rescapés, accuse l'armée burkinabé d'être responsable du massacre de Karma le 20 avril par des hommes en uniforme militaire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. C'est aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse. Les Nations Unies ont déploré hier que cette liberté soit attaquée dans le monde entier, dénonçant la désinformation et le fait que les journalistes soient pris pour cible. Claire Morin-Gibourg.
Toutes nos libertés dépendent de la liberté de la presse, a lancé Antonio Guterres dans un message vidéo diffusé hier. Les journalistes et employés des médias sont directement pris pour cible en ligne et en dehors en faisant leur travail vital. Ils sont quotidiennement harcelés, intimidés, arrêtés, mis en prison, a-t-il ajouté. Certains y perdent la vie. Selon Reporters sans frontières, 55 journalistes et 4 collaborateurs des médias ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2022. Le secrétaire général des Nations Unies a également attiré l'attention sur la désinformation et les discours de haine qui cherchent, selon lui, à brouiller les frontières entre la science et les conspirations ou entre les faits et la fiction.
Pendant ce temps, au Burundi, la cour d'appel de Bujumbura a confirmé hier la peine de 10 ans de prison prononcée contre la journaliste Floriane Irangabiye en janvier, a déclaré son avocat à l'AFP dans une affaire qui suscite des inquiétudes pour la liberté de la presse dans ce pays. La journaliste burundaise avait été arrêtée en août 2022 et condamnée en janvier à 10 ans de prison et $500 d'amende pour avoir, dit-on, porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Son avocat Eric Tibantedetse a promis de faire à nouveau appel pour faire annuler ce qu'il a appelé cette décision injuste. 30 médias, associations de journalistes et organisations de défense de la liberté d'expression ont appelé ce mercredi les gens au pouvoir au Mali et au Burkina Faso à assurer la protection des journalistes face aux menaces grandissantes dont ils font l'objet. Dans une lettre publiée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les signataires de cet appel jugent que la situation des journalistes est devenue critique au Burkina Faso. Ils s'alarment des appels au meurtre de journalistes et de leaders d'opinion, menaces et intimidations sur la presse nationale, montage grotesque contre des journalistes, suspension des médias internationaux RFI et France 24, expulsion des correspondants des journaux français Libération et Le Monde. Au Mali aussi, les pressions et les intimidations se multiplient, disent les signataires, parmi lesquels un certain nombre d'organes de presse burkinabé, la télévision malienne Djoliba, les médias français France 24, Libération, Le Monde et Radio France Internationale, des associations de journalistes et des organisations de défense des droits. Au Soudan maintenant, les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires ont convenu d'une trêve de 7 jours, du 4 au 11 mai, a annoncé hier le ministère soudanais, sud-soudanais des Affaires étrangères, Nanit Talani.
Le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo ont convenu du principe d'une trêve de 7 jours du 4 au 11 mai lors d'un entretien téléphonique avec le président sud-soudanais Salva Kiir qui agit sur l'initiative de l'organisation régionale est-africaine IGAD. Les deux hommes ont donné leur accord pour nommer des représentants pour des négociations de paix qui doivent se tenir dans le lieu de leur choix, précise le communiqué du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères. Aucune des précédentes trêves n'a été respectée. Nous devons voir si cet accord est accepté par toutes les parties et s'il est mis en œuvre par les forces sur le terrain, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l'ONU. Le président kényan William Ruto a déclaré plus tôt que le conflit a atteint des niveaux catastrophiques et qu'il est impératif de trouver des moyens de fournir une aide humanitaire avec ou sans cessez-le-feu. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 100 000 personnes ont fui vers les pays voisins.
L'ONG Amnesty International a accusé hier l'armée d'être responsable du massacre de Karma dans le nord du Burkina Faso, commis le 20 avril par des hommes en uniforme militaire, en se fondant sur le témoignage de rescapés. Des détails avec Lionel Gahima.
Le 20 avril, à Karma, village à 15 km de Waïgouya, dans le nord, des éléments de l'armée burkinabé sont entrés dans le village à 7h30 du matin, affirme Amnesty dans un communiqué. L'ONG indique que les soldats ont rassemblé les villageois, collecté leurs documents d'identité avant de tirer à bout portant sur ces mêmes villageois, tuant ainsi au moins 147 personnes, dont 45 enfants, recensés dans 8 quartiers du village. Le bilan officiel fait état d'une soixantaine de tués par des personnes arborant des tenues des forces armées nationales, une ONG burkinabé parlant de 136 morts à Karma, dont 50 femmes et 21 enfants, ainsi que 11 morts dans d'autres villages proches. Des témoignages de rescapés recueillis par Amnesty pointent du doigt la responsabilité du 3e bataillon de la BIR, brigade d'intervention rapide, dans les meurtres. Selon Amnesty, des habitants de Waïgouya, proche de Karma, ont aussi affirmé avoir été témoins du mouvement de bataillon dans leur ville en route pour Karma, puis revenant le 23 avril avant de retourner le lendemain à Ouagadougou. Jeudi, le gouvernement a fermement condamné ces actes ignobles et barbares et a affirmé suivre de très près l'évolution de l'enquête ouverte par le procureur de Waïgouya en vue d'élucider les faits et d'interpeller toutes les personnes impliquées. Cette enquête doit être menée de façon impartiale et indépendante afin que les responsables de crimes de guerre et autres violations graves soient traduits devant des juridictions de droit commun selon les normes d'un procès équitable, a affirmé Samira Daoud, directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, citée dans le communiqué. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste.
En RDC, on a appris hier de sources locales qu'au moins 6 civils ont été tués et des biens pillés lundi soir en Ituri, dans le nord du pays, dans une nouvelle attaque de village, celui de Makoumo, attribuée aux ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont envoyer 1500 soldats supplémentaires à leur frontière avec le Mexique à l'approche de l'expiration d'une mesure sanitaire controversée permettant d'expulser sans délai les migrants franchissant les frontières terrestres du pays. Jacques Aristide.
Le porte-parole du Pentagone indique qu'à la demande du département de la sécurité intérieure, le secrétaire américain à la défense a approuvé une augmentation temporaire de 1500 membres supplémentaires du personnel militaire pour compléter les efforts des forces de l'ordre aux frontières américaines. Pendant 90 jours, ils épauleront la police en matière de surveillance. Le personnel militaire ne participera pas directement aux activités de maintien de l'ordre, ajoute Pat Ryder. Une mesure liée à la pandémie de Covid-19 est mise en place en 2020 sous l'administration Trump, qui permet de refouler immédiatement les migrants ne disposant pas d'un visa, même les demandeurs d'asile potentiels, expire le 11 mai. Les États-Unis craignent un pic des arrivées à leurs frontières avec la levée de cette mesure connue sous le nom de Title 42. Washington a fait part la semaine dernière de nouvelles mesures avec pour objectif de faciliter le parcours des demandeurs d'asile ou réfugiés en créant des centres de gestion en Colombie et au Guatemala.
Par ailleurs, l'homme accusé au Texas d'avoir tué par balle 5 personnes âgées de 9 à 31 ans, qui s'était simplement plainte du bruit de son fusil d'assaut, a été arrêté mardi, a annoncé le shérif local. Nous avons cet homme en détention, il a été capturé, se cachant dans un placard sous des vêtements, a déclaré le shérif Greg Capers du comté de San Jacinto lors d'une conférence de presse. Plus de 250 agents locaux et fédéraux recherchaient depuis plusieurs jours le suspect dans cet état du sud des États-Unis où pullulent les armes à feu. Les autorités avaient offert une prime de $80,000 pour toute information permettant de localiser ce monstre ainsi que l'a qualifié un agent du FBI. La Minute Éco, Nanit Talani.
La République centrafricaine et le Togo veulent renforcer leur coopération commerciale et les investissements après de récents entretiens à Lomé entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Bangui et Lomé entendent annuler la double imposition des biens et signer plusieurs accords économiques et commerciaux via leur chambre de commerce, indique Togo Fest. Le chancelier allemand Olaf Scholz se rend jeudi en Afrique orientale, où il espère nouer des partenariats dans l'énergie propre avec le Kenya, pays pionnier dont 90% des besoins sont couverts par des énergies renouvelables. Olaf Scholz, qui sera accompagné d'une délégation d'industriels, doit visiter samedi une centrale géothermique près du lac Navaïcha dans la vallée du Rift. Pour terminer, Washington pourrait se retrouver en défaut sur leur dette publique dès le 1er juin si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates afin de relever le plafond de leur dette, actuellement fixé à 31 000 milliards de dollars, avertit la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Les républicains et les démocrates doivent donc parvenir à un accord rapidement.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball Africa League, les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club jouent leur destin ce soir dans la conférence Nil.
Oui, avec une victoire remportée hier devant les Ougandais de City Oilers, 96 à 68, Seydou Legacy Athletic Club joue sa survie dans la compétition ce soir à partir de 14h temps universel, dans un match qui s'annonce difficile face à Petro de Luanda, qui compte 3 victoires en 3 matchs jusqu'ici. Toujours ce soir, battu hier par les hôtes égyptiens d'Al Ahly, 91 à 75, les Mozambicains de Ferroviário da Beira font face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers. Tout comme Petro de Luanda, Al Ahly compte 3 victoires en 3 matchs.
Football, le Sénégal qualifié pour le tour suivant de la CAN des moins de 17 ans.
Hier mardi, lors de leur deuxième sortie dans le groupe A, les Lionceaux sénégalais ont battu le pays hôte, l'Algérie, 3-0. C'est la deuxième victoire du Sénégal en 2 matchs, suffisant pour voir le tour suivant. Dans cette même poule, toujours hier, la Somalie et le Congo se sont neutralisés 1-0. Le groupe B effectue sa deuxième sortie ce soir. Duel de leaders entre le Maroc et le Nigeria, tous deux vainqueurs de leur premier match, et opération relance pour l'Afrique du Sud et la Zambie qui s'affrontent.
Cyclisme avec les nouvelles du Tour du Bénin.
La deuxième étape se court ce mercredi et amènera le peloton de Parakou à Savet, distance 156,42 km. Hier, la première étape courue entre Parakou et Djougou, 132,53 km, a été enlevée par le Marocain Ed Dogmi Ashraf, temps mis 3h04'57, soit une vitesse moyenne de 43,03 km/h, d'où la satisfaction du directeur sportif de l'équipe du Maroc, Abdel Latif Sadoun.
C'est la première étape, le Marocain s'est gagné parce que c'est mon stratégie, on ne laissait pas aucun échappé sans les coureurs marocains. Les autres, ils sont fatigués en fin de la course, c'est très dur. Je te dis, mon coach, je te dis, à la fin de la course, tu dois sortir pour gagner l'étape.
Abdel Latif Sadoun, directeur sportif de l'équipe du Maroc. Kamzong Abosolo, Clovis du Cameroun, s'est classé deuxième et le Burkinabé Kone Souleymane est arrivé troisième de cette première étape, je le rappelle, courue hier.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les organisations professionnelles des médias célèbrent ce 3 mai, en partenariat avec le ministère de la Communication, la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national « La responsabilité sociale des journalistes en période de transition ». Une occasion saisie pour faire un état des lieux sur la liberté de la presse au Tchad avec notre correspondant N'Djamena André Kotmadjingar.
Je dirais que la liberté de la presse aujourd'hui au Tchad est sans limite au point où tout le monde peut s'improviser journaliste. Alors que peut se prévaloir du titre de journaliste en lettres, c'est une usurpation du titre et donc sanctionné par le code pénal tchadien.
Abdraman Barka Doningar, président de la HAMA, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, tout en déplorant le désordre dans la pratique du métier au Tchad, il invite les professionnels des médias d'être jaloux de leur métier. Les journalistes indépendants estiment quant à eux que la loi qui le métier au Tchad est liberticide puisqu'elle limite les pratiques du journalisme.
On nous défend par exemple de parler des forces de fond syndicales. Et on a en ce moment une haute autorité des médias et de l'audiovisuel qui est devenue pratiquement un tribunal. Il est devenu un juge de répression des infractions, des délits de droit commun, comme la diffamation, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Avenir de la tirée journaliste indépendant et directeur de publication du journal à Bagarde. La réaction du président de la HAMA, l'autorité de régulation Abdraman Barka Doningar, ne se fait pas attendre.
Je ne pense pas qu'il donne de pouvoir judiciaire à la HAMA, non. La HAMA sanctionne préventivement pour des cas graves. Mais ces décisions sont susceptibles de recours devant la plus haute juridiction. Jusque-là, nous n'avons amendé aucun média. Pour certaines conditions, si seulement c'est le juge qui intervenait sur la plainte surtout de l'État, ils allaient être sanctionnés lourdement parce qu'ils n'avaient pas pour la plupart la qualité de journaliste professionnel. Et ils ont commis de fautes en utilisant juste un moyen de communication. Que les gens comprennent que parfois c'est dans leur intérêt que la HAMA était intervenue.
S'agissant de la liberté de la presse au Tchad, les organisations professionnelles des médias estiment qu'elle est utopique sous le régime de transition. Pour la présidente de l'Union des femmes professionnelles de la communication du Tchad, Halime Assadia Ali, le Tchad a des beaux textes qui consacrent la liberté de la presse, mais l'application pose problème.
Il y a des journalistes qui sont parfois menacés, tabassés. Malheureusement, cette année, au cours d'événements qui ne sont pas liés directement à l'exercice de la profession, on a perdu aussi des professionnels. Je pense qu'il n'y a pas de liberté totale, mais nous devons faire en sorte qu'on puisse avoir le plus de liberté possible pour pouvoir exercer, aussi bien sur le plan des textes que dans la pratique.
Le président de l'Union des radios privées du Tchad, Sony Mekondo, déplore le manque d'accès aux sources de l'information qui, selon lui, est un fondement même de la liberté de la presse.
Il faut le dire sincèrement que les journalistes ont tellement de difficultés au Tchad. D'abord, l'accès à l'information, en tant que président de l'Union des radios privées du Tchad, je déplore ça. Quand il y a un événement où les journalistes viennent pour couvrir, les forces de l'ordre ne les ratent pas. On vous chasse comme des malpropres. Par rapport à la rareté de gaz, de carburant ces derniers temps, pas d'électricité, tout ça, quand on vient vers ceux-là qui doivent parler, les gens n'acceptent pas.
André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de femmes déplacées de guerre au Nord Kivu s'activent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs familles dans différents sites de cantonnement. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi a visité le camp de Kanyaruchinia. Écoutons son reportage.
Sous un parapluie au bord de la route, Olvin Semasaka, couturière, confectionne une petite robe sur sa machine à coudre. Après la couture, elle restera sans rien faire. Les déplacés, souciés avant tout de la nourriture, n'ont pas d'argent pour se payer le luxe d'une robe.
Le travail n'évolue pas parce que les gens n'ont pas d'argent. Un modèle pour lequel on peut payer 10 000 francs, je l'ai fait à 7 voire 5 000 francs. Nous n'avons pas le choix.
Justine Envoyé-Couré, une autre couturière, est dans la même situation. Pour contourner le manque d'argent, elle fait une sorte d'étroc et s'est fait payer avec des vivres.
C'est quand les déplacés ont reçu l'assistance qui nous amène des tissus à coudre. Ils amènent parfois de l'argent et souvent des vivres dont nous estimons la valeur en argent et nous nous rendons service. Lorsque je manque du travail ici, je vais transporter des sacs de presse dans le parc, on me paye, ou soit je vais mendier dans la cité.
Malgré toutes les difficultés dans les camps des Kanyaruchinya, Madame Nyirabimana Sifa parvient à assurer un repas par jour à sa famille des 6 enfants en vendant du riz et des haricots.
Je vends en détail du riz et des haricots, mais rien ne va franchement. Nous avons 6 enfants, plus mon mari et moi, ce qui fait 8. Nous ne mangeons pas la journée, nous nous contentons du peu que nous trouvons la nuit.
Le rétablissement de la paix dans la province du Nord Kivu est le rêve de toutes ces femmes. Clémence Karimunda, vendeuse de souliers et crédit téléphonique dans les camps, rêve de pouvoir reprendre son travail d'enseignante de l'école primaire.
Quand j'étais chez nous à Rougari, j'enseignais dans une école primaire. Lorsque la guerre a éclaté, tout s'est arrêté et tout le monde ne devrait que chercher autrement sa survie. Lorsque la paix sera rétablie, j'espère que je reprendrai mon vrai travail.
Selon les organisations humanitaires, plus de 530 000 personnes ont été contraintes à quitter leur village pour se réfugier dans des camps au Nord Kivu. La majorité sont des femmes et des enfants. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, la représentativité des femmes dans les assemblées élues reste faible, malgré une loi prise en 2019 portant le quota féminin à 30%. À l'approche des élections locales de 2023, des formations sont menées par les ONG et d'autres structures étatiques pour une meilleure présence des femmes dans les assemblées. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Représentativité des femmes dans les assemblées, la réalité est tout autre, selon le vice-président de l'Assemblée nationale, Gaston Weyimela.
À l'état actuel de notre Parlement, la moisson est maigre. Nous dénombrons 19 femmes sénateurs et 35 femmes députées sur un total de 354 parlementaires.
C'est pourquoi le Conseil national des droits de l'homme veut aider les femmes qui veulent être candidates à accroître leurs atouts. Namizata Sangaré, présidente du CNDH.
Une phase de formation sur des notions théoriques sur 4 mois et puis une autre phase pratique. Notre objectif, c'est 170 femmes, 10 femmes que nous allons coacher pour les régionales, 70 femmes pour les municipales et puis les autres pour celles qui souhaitent être soit directrices de campagne ou être actives dans des staffs de campagne.
La formation comprend entre autres la stratégie de communication pour convaincre l'électorat. La panéliste Agnès Crédit, journaliste et experte en genre.
Bien communiquer, c'est savoir ce qu'on a à dire. Donc la question du message. Et à qui ce message s'adresse ? Donc identifier le message de manière claire, identifier la cible, identifier les canaux de diffusion de ce message. Et ça, c'est important. Avoir une bonne notion de tous les médias. C'est aussi connaître les codes couleurs, c'est comment se vêtir, c'est comment se présenter. C'est donc avoir une personnalité affirmée et puis avoir des idées très claires.
Une panéliste, Simone Eyvé Gbagbo, ex-première dame, est présidente du mouvement Génération Capable, qui est intervenue sur le thème « Comment devenir une femme politique de conviction ?»
La femme politique de conviction doit être une femme déterminée, une femme audacieuse. La clé pour réussir une carrière politique, c'est d'avoir des convictions fermes, des convictions fortes et une vision claire. Cette vision-là, elle doit être fondée sur des valeurs.
Pour les organisations non gouvernementales, le challenge, c'est un rendement de qualité. Chantal Ayemou, présidente du Réseau ivoirien de défense des droits de la femme et de l'enfant, le RIDEF.
L'action que nous menons, c'est d'attirer l'attention des décideurs, l'attention des femmes elles-mêmes, l'attention des partis politiques sur le fait d'impliquer les femmes à la prise de décision.
Pauline Yao Afoué, présidente de la coordination des femmes pour les élections en Côte d'Ivoire, COFEMSI, apporte cet éclairage.
Les gens ont l'impression qu'en parlant de loi et de quotas, c'est une faveur qu'on veut faire aux femmes. Raison pour laquelle les femmes doivent prouver qu'elles ont les capacités de leadership. D'abord la responsabilité, la confiance en soi, qui est le secret de la bonne gestion. Les femmes doivent se décider elles-mêmes de briguer des postes. Il faut s'imposer. Nous sommes sur la voie.
Donc, il faut se donner les moyens de se jeter dans la bataille politique pour convaincre les électeurs, car aucune élection n'est gagnée d'avance. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi 3 années de pandémie et ont durement affecté le monde de l'emploi. L'OIT appelle à une mobilisation pour remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales pour un avenir plus stable et plus équitable. Quel avenir pour le marché du travail? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l'emploi salarié? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Se présenter à la mauvaise porte, conduire dans la mauvaise allée, récupérer un ballon de basket dans la cour d'un voisin en colère, voici quelques-uns des scénarios qui ont conduit à des fusillades le mois dernier aux États-Unis. Selon les partisans du contrôle des armes à feu, ces fusillades montrent que les États-Unis ont besoin de lois plus strictes. Laurel Baumann fait le point, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Voici quelques-unes des victimes qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment et qui ont été la cible de tir. Âgée de 20 ans, Kaylin Gillis a été abattue par Kevin Monahan, 65 ans, alors qu'elle et ses amis se sont aventurés en voiture, trop près de son domicile à New York. Son père, Andrew Gillis.
My daughter was an honor student.
Ma fille était une excellente élève. Elle avait l'espoir et le rêve de devenir biologiste, marin ou vétérinaire. Et cet homme nous a pris ça.
Monsieur Monahan a été accusé de meurtre. Le shérif local, Jeffrey Murphy.
Il n'y a eu aucune interaction entre Monsieur Monahan et les occupants des véhicules. Ils avaient réalisé qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Ils ont fait demi-tour pour partir. Et c'est à ce moment-là que les coups de feu ont été tirés.
Andrew Lester, 84 ans, a été accusé de voie de fait au premier degré pour avoir tiré sur Ralph Yarl, 16 ans, qui s'est présenté à sa porte d'entrée à Kansas City, dans le Missouri. Monsieur Lester a dit qu'il pensait que l'adolescent faisait irruption dans sa maison. L'avocat de Ralph a déclaré que le jeune homme s'était trompé de résidence alors qu'il devait récupérer ses jeunes frères et sœurs. L'avocat de la famille Yarl, Lee Merritt.
Remarquez bien que toucher la porte en soi ne suffit pas à justifier l'utilisation d'une arme mortelle. Mais Ralph sonna à la porte et attendit tranquillement dehors jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Cela a pris du temps parce qu'évidemment, M. Lester a dû récupérer son arme, mais Ralph n'a pas essayé d'entrer dans la maison.
Et à seulement 6 ans, Kinsley White est devenue une cible avec son père alors qu'elle tentait de récupérer un ballon de basket dans la cour d'un voisin. Le tireur a été arrêté. Écoutons Kinsley.
Pourquoi a-t-il tiré sur moi, mon père ?
Les défenseurs des armes à feu déplorent les récentes fusillades, mais tiennent fermement à leur droit constitutionnel du second amendement de porter des armes à feu. Mike Anestis est le directeur exécutif du New Jersey Gun Violence Research Center.
Certaines des politiques qui ont fait leurs preuves prouvent qu'il faut traiter ce qui se passe au point de vente ou empêcher certaines personnes d'obtenir des armes à feu. Et cela pourrait être des vérifications d'antécédents étendus ou des période d'attente ou exiger un permis pour acheter une arme à feu.
Lee Williams est rédacteur en chef du projet de journalisme d'investigation de la Fondation Second Amendment et membre du conseil d'administration du groupe Pro-Arme Florida Cary.
C'est un très bon amendement. Localement, personnellement, ça me permet d'avoir la meilleure arme à feu alors que je dois me défendre, moi ou ma famille.
Les partisans des armes à feu disent que les Américains veulent se protéger et ne pas compter uniquement sur la police. En attendant, les fusillades continuent.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoulia, à la mise en onde, Lionel Runanira-Gahima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.